titre de ce 13 juin, en Australie, les travaux du Parlement reprennent à Canberra avec la sécurité au cœur des débats. L'incertitude politique règne toujours en Grande-Bretagne. L'Australie candidate pour organiser le mondial féminin de foot en 2023. Ce mardi, le Premier ministre Malcolm Turnbull s'adresse au Parlement fédéral sur les questions de sécurité et sur le terrorisme. Le chef de l'opposition s'adressera aussi au Parlement sur ce sujet ce mardi. L'opposition fédérale déclare n'avoir eu aucun briefing sur les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Immigration, Peter Dutton, qui va pouvoir désormais annuler les décisions de citoyenneté prises par le tribunal d'appel administratif. Mais le ministre dit que le Parti travailliste a été informé. Tony Burke de l'opposition déclare que les nouveaux pouvoirs du ministre n'ont pas été discutés.
If Peter Dutton wants Labor to support a change, he should put forward something that is in the interests of national unity. He should stop behaving like a dill, demanding that people support a document that has not even been written.
Voilà, c'était Tony Burke de l'opposition fédérale. Le gouvernement du Victoria est en train d'étudier la possibilité de permettre à la police de traiter des teenagers comme elle traiterait des adultes si ces jeunes teenagers sont soupçonnés de planifier ou de prendre part à des actes du terrorisme. Le procureur général de l'État du Victoria, Martin Pakula, étudie la possibilité de maintenir des teenagers en garde à vue pendant 2 semaines, comme pour les adultes.
People of a younger and younger age are both being radicalised and at risk of being radicalised. That's certainly the intelligence that we have from Victoria Police.
Le procureur général de l'État du Victoria, l'aile droite conservatrice de la coalition, critique les objectifs de l'énergie renouvelable proposés par le docteur Finkel, le scientifique qui vient de soumettre un rapport sur les objectifs de l'énergie propre. L'ancien premier ministre Tony Abbott a critiqué le rapport, déclarant que c'est une taxe sur le charbon. Le sénateur Darren Hinch, lui, reste optimiste que les deux principaux partis au Parlement puissent trouver un accord.
Coal is still going to be dug up in Australia for the next 20, 30 years. That's going to happen. But it'll be done with more and more renewables. And if the government's aim is to get 42%, it's not that far away from Labor's 50%. So there's, I think they can find some common ground there, and I think that's encouraging.
Voilà, c'était le sénateur Darren Hinch. Le député libéral Craig Kelly a déclaré sur Sky News qu'il faut davantage de recherches sur le modèle proposé par le docteur Finkel.
Absolutely, we need to do a bit more homework. The modeling has not been released. Let's get the modeling released. Let's get a couple of other independent organisations to run through the numbers where the Finkel report says we can possibly lower electricity. Let's have a look.
Lower electricity costs.
Lower electricity costs. And also let's have a look at how we stand on an international competitive basis. They're things that we need to look at into great detail before we make any decisions.
Voilà, c'était le député libéral Craig Kelly. Le Conseil sur le climat en Australie déclare que le dernier rapport du docteur Finkel sur le marché de l'électricité ne s'adresse pas suffisamment à une réduction des émissions de carbone. Écoutez la présidente du Climate Council, Amanda McKenzie, sur le programme Q&A de l'ABC hier soir.
There's 3 reasons for that. The first is that it doesn't get emissions down as far as they need to go. The second is it should be doing far more on coal. We need to be retiring coal-fired generators. And this report envisages coal-fired generators being part of the mix till 2050, whereas we need to get to net zero emissions by then. Also, we need to get further on renewable energy is the third point. We can do better than 42% in renewables by 2030. It should be well over 50% if we're going to be tracking to the Paris Commitment.
La présidente du Climate Council en Australie. Le pouvoir en Russie a arrêté le leader de l'opposition, le principal leader de l'opposition, Alexei Navalny. Il va être emprisonné pour 30 jours pour avoir organisé des manifestations illégales. Son objectif, c'est de renverser le président russe Vladimir Poutine lors des prochaines élections présidentielles de 2018. Le porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche, Sean Spicer, condamne les actions du pouvoir en Russie.
The Russian people, like people everywhere, deserve a government that supports an open marketplace of ideas, transparent and accountable governance, equal treatment under the law, and the ability to exercise their rights without fear or retribution.
Voilà, c'était le porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche. On écoute maintenant Muriel Pomponne qui est à Moscou pour Radio France Internationale.
Après les interpellations massives lors de la manifestation du 26 mars, on aurait pu imaginer que les gens hésiteraient à sortir. Et il n'en a rien été. C'est d'autant plus étonnant que le lieu de la manifestation a été modifié au dernier moment. Elle a eu lieu dans une rue interdite à la circulation car il y avait une fête médiévale en l'honneur de la journée de la Russie. Dans un premier temps, les manifestants se sont mêlés aux familles présentes et ne scandaient aucun slogan. Et puis, les forces anti-émeutes se sont installées à un bout de la rue et ont commencé à avancer. Et là seulement, la foule a entonné des slogans. Mais elle est restée très calme et les forces de l'ordre ont arrêté des gens qui ne faisaient que brandir une pancarte ou chanter un slogan. Et plus la police arrêtait de monde, plus les gens affichaient leur opinion, notamment en se collant un autocollant « On en a marre ». Des manifestants très jeunes qui disaient qu'ils n'avaient pas peur et qu'ils voulaient un changement de régime. D'ailleurs, à la différence du 26 mars, les slogans étaient clairement contre Poutine, plus que contre la corruption, avec notamment ce nouveau slogan « 1, 2, 3, Poutine, va-t'en ». D'après les ONG, 700 personnes ont été arrêtées à Moscou et 900 à Saint-Pétersbourg.
Voilà le reportage de Muriel Pomponne à Moscou pour RFI. La première ministre britannique Theresa May a présidé la première réunion du nouveau Conseil des ministres après les élections de jeudi dernier. Mais c'est toujours l'incertitude sur les discours de la reine qui présente traditionnellement les objectifs d'un nouveau gouvernement, comme l'explique le ministre Damien Green.
At this very important time, we want to produce a substantial Queen's speech. There's a huge amount of work to get on with, not just the Brexit negotiations that start next week, but many other challenges that face us, and we're determined to produce a Queen's speech to make sure we can fulfil the Prime Minister's ambition to have a country that works for everyone.
Le ministre Damien Green en Grande-Bretagne. On écoute maintenant l'analyse de Muriel Delcroix pour Radio France Internationale.
Humiliée et isolée, Theresa May s'est excusée plusieurs fois devant ses députés des dégâts infligés à son parti. « C'est moi qui ai provoqué cette pagaille et c'est moi qui nous en sortirai », a-t-elle encore promis. La dirigeante a dû notamment s'expliquer sur sa façon de gouverner sans consulter ses ministres, sur une campagne électorale ratée, mais aussi sur l'incertitude entourant désormais les négociations du Brexit. La plus grande confusion règne d'ailleurs sur le calendrier des prochains jours. On ne sait pas si le lancement de ces discussions va être maintenu à la date du 19 juin, tout comme le traditionnel discours de la reine officialisant le programme législatif du nouveau gouvernement. En effet, les discussions avec le petit parti des démocrates unionistes nord-irlandais s'avèrent difficiles, mais sans le soutien de leurs 10 députés à Westminster, les conservateurs auront toutes les peines à gouverner. Or, cette alliance fait grincer beaucoup de dents, à la fois à cause des positions ultra-conservatrices du DUP, opposées à l'avortement et au mariage homosexuel, mais aussi parce qu'un accord risque de remettre en question la neutralité du gouvernement britannique en Irlande du Nord.
Muriel Delcroix pour RFI. La Cour d'appel de Californie a rejeté le second décret immigration de l'administration Trump. Le texte, je rappelle, voulait interdire d'entrer sur le sol américain les ressortissants de 6 pays, l'Iran, la Syrie, le Yémen, la Somalie, le Soudan et la Libye. Précision de Anne-Marie Capomaccio pour RFI.
C'est une décision prise à l'unanimité par les 3 juges de la Cour d'appel de Californie. Le décret Trump sur l'immigration, même révisé, même édulcoré selon le président, ce décret reste contraire aux lois américaines. La décision du juge d'Hawaï est maintenue. Ce dernier a qualifié le décret de discriminatoire pour les musulmans et contraire à l'esprit de la Constitution des États-Unis. La Maison-Blanche n'a donc pas réussi à faire la preuve du danger imminent posé par l'ensemble des ressortissants des pays en question. La Cour californienne autorise toutefois l'administration à renforcer le contrôle des antécédents pour tout voyageur. Les avocats de l'exécutif avaient pourtant expliqué que les pays concernés étaient justement ciblés à cause de la faillite, je cite, de leur système de validation des documents. La Maison-Blanche, sans même attendre cette décision, avait déposé le dossier devant la Cour suprême. C'est le dernier recours. La plus haute juridiction n'a pas encore accepté de se saisir de l'affaire.
Anne-Marie Capomaccio pour RFI. Le président du Sénégal était en France hier, où il a été reçu à l'Élysée. Il se rend en Allemagne ce mardi. Bilan de sa visite en France avec Pierre Pinto pour RFI.
En matière de lutte contre le terrorisme au Sahel, Emmanuel Macron a salué l'engagement de Dakar, le Sénégal, bientôt premier contributeur de troupes de la MINUSMA. Mais la lutte contre le terrorisme passe surtout par le développement, a expliqué le président français.
Ce qui prévient l'émergence de toutes les déstabilisations, c'est une politique de développement, de consolidation. La France y est fortement engagée. Nous souhaitons aller plus loin, structurer avec le Sénégal une initiative forte en matière d'éducation.
Macky Sall a salué l'opération Barkhane au Sahel et le rôle de la France dans la lutte contre les djihadistes. Le Sénégal qui continuera d'appuyer ses efforts.
Avec vous, nous verrons comment accompagner la région, la CEDEAO, le G5, tous les pays pour que l'Afrique ne soit pas le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme.
Au menu des discussions également, le climat, désormais au cœur des projets de coopération.
Nos deux pays ont réaffirmé notre attachement à l'accord de Paris et c'est un défi extraordinairement important que nous confirmerons dans les différents forums diplomatiques et par l'action que nous mènerons dans nos pays et nos régions.
Des projets comme le train express régional de Dakar, électrique, des projets dans l'énergie renouvelable ou le numérique, Macky Sall s'est posé en défenseur résolu de l'accord de Paris.
Lors de la COP21, l'Afrique a parlé d'une seule voix pour dire à nos partenaires que les grands pays industrialisés puissent s'engager dans la constitution du fonds vert et que l'Afrique qui ne contribuait que pour 4% dans la pollution mondiale était la principale victime. C'est pourquoi nous sommes jaloux de l'accord de Paris.
Macky Sall a salué le coup de fouet donné par Emmanuel Macron à la coopération franco-sénégalaise, une coopération sans nuages, a d'ailleurs insisté le président sénégalais.
Pierre Pinto pour RFI. Le ministre qatarien des Affaires étrangères effectue un voyage à Paris et à Londres pour trouver du soutien suite à la crise régionale qui affecte son pays, isolé par l'embargo que mènent l'Arabie Saoudite et plusieurs autres pays arabes. On écoute le ministre Mohamed Al-Thani après sa visite à Paris.
Le président Macron est très actif, il communique beaucoup avec les différentes parties dans cette crise. Il a appelé et parlé à son Excellence l'émir 3 fois et nous avons des contacts très resserrés, moi-même et mon homologue. La France a été très active dans ses relations avec les différentes parties pour une désescalade, pour que les parties reviennent sur les mesures qui ont été prises et pour encourager le dialogue. Et ils soutiennent le processus engagé par les pays du Golfe sous le patronage de l'émir du Koweït, M. Sabah. En ce qui concerne la sécurité globale des pays du Golfe, le Qatar est prêt à s'asseoir à une table et à négocier, à discuter des effets que notre politique a sur la sécurité globale des pays du Golfe. En ce qui concerne leurs accusations, selon lesquelles nous interférons dans leurs affaires internes, ils ont le droit de formuler ces accusations, mais nous avons aussi le droit de répondre et de réagir à ces accusations.
Voilà, c'était le ministre qatarien des Affaires étrangères. Un mot de sport, le gouvernement fédéral en Australie annonce qu'il va soutenir la candidature de l'Australie pour l'organisation de la Coupe du monde féminine de football de 2023. Écoutez le Premier ministre Malcolm Turnbull.
It's even more special for a proud sporting nation such as ours. We're recognized internationally for our sporting achievements and for showcasing some of the biggest sporting events in the world, and when we do it triumphantly, we do it successfully, we do it to great acclaim. We set the bar at the highest level in hosting great global sporting events.
Voilà, le Premier ministre Malcolm Turnbull. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth, maximal de 23 degrés. Adélaïde, 18. Melbourne, 15. Hobart, 15 également. Canberra, 16. Sydney, 20. Brisbane, 21. Cairns, 26. Darwin, 29. Et à Alice Springs, maximal de 19 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 13 juin. En Australie, les travaux du Parlement reprennent à Canberra avec la sécurité au cœur des débats. L'incertitude politique règne toujours en Grande-Bretagne. L'Australie candidate pour organiser le mondial féminin de foot en 2023. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench